Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire de l'équipe de France de football, les Bleus. Première partie, 1904-1980. Dès la fin du XIXe siècle, des rencontres impliquant des sélections françaises sont organisées, notamment sous l'égide de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique. La création de l'équipe de France de football est liée à la fondation de la Fédération internationale de football association, la FIFA, en 1904. L'équipe de France de football démarre son histoire officielle le 1er mai 1904 à Bruxelles, par un match nul face à la Belgique, 3-3. Le premier buteur français se nomme Louis Meynier, et le premier capitaine, Fernand Canel. La Première Guerre mondiale interrompt les activités de l'équipe de France et cause la mort de 17 de ses internationaux. La création de la Fédération française de football en 1919 permet à l'équipe de France de se structurer. La première victoire face aux Anglais, 2-1, le 5 mai 1921, marque les débuts réels d'une équipe de France sélectionnant désormais les meilleurs joueurs du pays. L'entraîneur britannique, Charles Griffiths, est engagé en vue des Jeux Olympiques d'été de 1924 que la France organise. À la suite du tirage au sort du tournoi de football des Jeux Olympiques de 1924, la France commence la compétition directement en huitième de finale. Le 27 mai 1924, les tricolores battent la Lettonie largement 7-0 et se qualifient pour les quarts de finale. Ils y affrontent l'Uruguay, l'un des favoris du tournoi et le futur vainqueur. Les Français s'inclinent 5-1 et sont éliminés. En juillet 1930, la France participe à la première Coupe du Monde organisée en Uruguay. En phase de poule, Lucien Laurent inscrit le tout premier but de l'histoire de la compétition face au Mexique, que les Bleus battent 4-1. Mais les deux défaites, 1-0 face à l'Argentine, finaliste des Jeux Olympiques de 1928, et face au Chili, l'empêchent de passer le premier tour. En 1934, l'entraîneur anglais George Kimpton est engagé en vue de la Coupe du Monde en Italie. Au premier tour, la France est opposée à la Winter Team autrichienne, qui fait partie des favoris. Le 27 mai 1934, la France s'incline seulement 3-2 après prolongation. À leur retour à Paris, le 30 mai 1934, les joueurs français sont accueillis en héros par une foule de 4000 personnes venues leur rendre hommage. En 1938, la France organise pour la première fois la Coupe du Monde. Lors du quart de finale, 58 000 spectateurs, un record, viennent encourager à Colombes la France qui rencontre l'Italie. Mais les Bleus doivent s'incliner 3-1 devant les futurs vainqueurs de l'épreuve. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'équipe de France connaît une période de faste. Sur les 13 matchs disputés de 1938 et 1939, elle gagne 8 fois. Les Bleus se découvrent un jeune gardien de talent, Julien Daruy, et un attaquant dribbleur et passeur exceptionnel, Larbi Ben Barek. Le 28 janvier 1940, la France bat le Portugal 3-2 pour le 46e match du capitaine Étienne Mattler, qui devient recordman de sélection. C'est le dernier match de la sélection avant l'occupation par l'Allemagne nazie. Durant cette période, l'équipe de France ne dispute que 2 rencontres. La France rate de peu la qualification au Mondial brésilien de 1950, éliminée par la Yougoslavie au terme d'une défaite dans un match d'appui 3-2 après prolongation. Elle est cependant repêchée à la suite des forfaits de l'Écosse et de la Turquie avant de déclarer finalement forfait. Les Bleus signent cependant quelques brillants résultats comme un match nul 2-2 en 1951 contre l'Angleterre à Highbury. Il s'en faut de très peu que l'équipe de France des Vignal, Jonquet, Barat et Flamion soit la première équipe du continent à battre les Anglais sur leur terre, performance que les Hongrois réalisent 2 ans plus tard. La génération dorée des Fontaine, Coppa, Piantoni, Vincent, Pinverne, Wieneski, Jonquet et Sikorski s'inscrit directement dans la suite de cette équipe de 1951. La France devient alors une des toutes meilleures équipes nationales, même si elle rate sa Coupe du Monde en 1954 en Suisse. Éliminée au premier tour à la suite d'une défaite contre la Yougoslavie, 1-0, et une victoire contre le Mexique 3-2 qui ne suffira pas à qualifier les Bleus. À la Coupe du Monde de 1958 disputée en Suède, l'équipe de France arrive sur place le 20 mai, soit 3 semaines avant son premier match. Elle réalise un beau parcours en atteignant la 3e place du tournoi. Juste Fontaine marque 13 des 23 buts de l'équipe française, en laquelle personne ne croit. À la suite des victoires 7-3 contre le Paraguay, défaite 3-2 contre la Yougoslavie et victoire 2-1 contre l'Écosse, la France sort première de son groupe. En quart de finale, les Bleus ne font qu'une bouchée de l'Irlande du Nord 4-0. En demi-finale, disputée le 24 juin à Stockholm, la France affronte le Brésil du jeune Pelé. Alors qu'elle tient tête aux Brésiliens, l'équipe de France perd son capitaine et défenseur central Jonquet, blessé. Les Français s'inclinent finalement 5-2. Ils terminent sur le podium grâce à un dernier succès 6-3 sur l'Allemagne de l'Ouest, marqué notamment par un quadruplé de Fontaine. La France termine meilleure attaque de la compétition. Les 13 buts de Just Fontaine restent le record absolu sur une seule édition de la Coupe du Monde. La France connaît nombre de désillusions au cours des années 1960 jusqu'à la fin des années 1970. Elle ne parvient pas à se qualifier pour la Coupe du Monde de football en 1962 au Chili. Placée dans le groupe 2 des éliminatoires, elle termine à égalité de points avec la Bulgarie à la première place. Un match de barrage est disputé à Milan, en Italie. La France s'incline 1-0 sur un but contre son camp d'André Laurent. Après avoir éliminé successivement l'Angleterre puis la Bulgarie, l'équipe de France échoue au stade des quarts de finale de l'Euro 1964, battue par la Hongrie. Qualifiée pour la Coupe du Monde 1966, la France tombe dans un groupe relevé et ne parvient pas à franchir le premier tour. Après un match nul contre le Mexique, 1-1, les Français s'inclinent face à l'Uruguay, 2-1, et l'Angleterre, 2-0, futur champion du monde. L'équipe de France touche vraiment le fond quand elle est défaite à domicile, 1-0, par les Norvégiens, le 6 novembre 1968, en match qualificatif pour la Coupe du Monde 1970. Et qu'elle sombre, 5-0 face à l'Angleterre, le 12 mars 1969 à Wembley. La France ne se qualifie ni aux Coupes du Monde de 1970 et 1974, ni aux Championnats d'Europe de 1972. Sous la houlette de Georges Boulogne, la France du football se reconstruit en mettant en place une politique centrée sur la formation, dont l'équipe de France profite par ricochet. Stéphane Kovac, l'entraîneur mythique de l'Ajax d'Amsterdam des années 70, poursuit sur cette voie en donnant leur chance à de très nombreux jeunes joueurs. Les résultats ne sont pas vraiment encore au rendez-vous, mais la mentalité, le physique et l'approche tactique des joueurs français changent. Le réveil de l'équipe de France sonne en 1977, avec la qualification pour le Mondial argentin, au terme d'une victoire décisive 3-1 contre la Bulgarie, obtenue par la génération montante du football français, dont les leaders sont Platini, Rocheteau, Trésor, Bossis, Battenet ou encore Six. En Argentine, les Français payent leur manque d'expérience du plus haut niveau par une élimination dès le premier tour. Tombés dans un groupe particulièrement relevé, les Français font pourtant bonne figure en ne concédant que de courtes défaites face à deux des favoris de la compétition, que sont l'Italie, défaite 2-1 malgré l'ouverture du score par Bernard Lacombe dès la première minute de jeu, et face à l'Argentine, défaite 2-1 avec un pénalty litigieux sifflé à l'encontre de Marius Trésor. Pour l'honneur, les Français viennent facilement à bout de la Hongrie 3-1 grâce à Lopez, Berdol et Rocheteau dans leur dernier match. Ce match est resté connu pour le prêt de maillots blanc et vert du club Kimberley, les deux nations s'étant présentées avec un jeu de maillots de la même couleur.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.